L'affaire Salahin et Palatin, un braqueur surnommé Jésus. Narration, Florent Houllier. Le 25 juillet 1995, une agence du Crédit Agricole de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, est braquée à l'arme lourde. Trois hommes sont suspectés. Nenad Zambas, René Salahin, dit Jésus, et Pierre Palatin. Les échanges de tirs font un mort et deux blessés graves parmi les policiers. L'enquête criminelle va durer plus d'un an. Les auteurs sont identifiés, et pourtant, ces derniers n'auraient rien à se reprocher. Pendant toute l'instruction, ils nient les faits. Il est vrai que les braqueurs n'ont pas été filmés. Les trois accusés n'ont pas non plus été identifiés par les employés de la banque. Qu'à cela ne tienne, ce ne sont pas les preuves qui manquent. Vous allez vite le comprendre dans le récit de cette effroyable tragédie. Tout commence au matin du 25 juillet 1995 à Thonon-les-Bains, charmante ville thermale de 35 000 habitants posée sur les rives du lac Léman. Située à quelques kilomètres de Genève, Thonon-les-Bains est réputée pour sa qualité de vie, mais surtout sa bonne croissance économique. Pour des braqueurs de banque, c'est une ville à privilégier pour un casse. Les quatre individus qui ont planifié le braquage de l'agence Crédit Agricole du Rhône en connaissent le potentiel, tout comme ils connaissent leur travail. Ils choisissent l'heure d'ouverture pour attaquer. Il n'y a que deux clientes et six employés de la banque. Toutes des femmes. Le braquage aurait pu être rapide et sans bavure. Les sacs étaient déjà bien remplis avec l'argent de la banque, mais les deux braqueurs ont oublié un détail. La banque est en effet surveillée en direct par des micros et des caméras. Tout le dispositif est relié à un PC de sécurité. Il est 8h30 du matin. L'agent chargé de sa surveillance prévient immédiatement la police. Il demande à ce qu'une petite unité soit envoyée sur place. Elle devra se montrer la plus discrète possible pour ne pas inciter les braqueurs à appuyer sur la gâchette. Les deux individus cagoulés ne semblent pas nerveux. Quelques minutes plus tard, cinq policiers se postent à proximité de la banque. Le plan d'interpellation n'est pas encore bien défini quand tout d'un coup, un premier coup de feu retentit. Celui-ci provient de l'extérieur de la banque. Un troisième braqueur est posté comme guetteur à l'extérieur de l'agence pour surveiller les allées et venues dans la rue. L'homme prévient ses complices à l'intérieur de la banque, des nouveaux coups de feu partent. Dans la confusion générale, les policiers tirent sur les braqueurs. Les braqueurs ripostent à leur tour en usant d'une arme lourde, une Kalachnikov. Un tir en rafale atteint mortellement le sous-brigadier Denis Hogg et blesse les policiers Éric Albert et Michel Loiseau. Un nouveau tir puissant fait exploser la vitrine de la banque par laquelle s'échappent les malfrats. Sans prendre tout leur butin, tous trois sautent dans une voiture qui démarre aussitôt. Cette dernière était conduite par un complice qui les attendait devant l'agence. Des policiers sont appelés en renfort, ainsi que les services de secours. Les clientes et les employés braqués sont interrogés par la police. Les premiers éléments de l'enquête confirment qu'il s'agissait bien là de professionnels. Les deux braqueurs ne sont pas entrés par l'entrée principale. Ils étaient déjà dans les locaux à l'arrivée des employés. Plus tôt dans la matinée ou dans la nuit, ils avaient scié les barreaux de la fenêtre des toilettes. L'ouverture était assez grande pour faire passer deux hommes de carrure moyenne. Aucune victime n'est en capacité de fournir une description très précise des braqueurs. Elles sont en état de choc. Les braqueurs se sont servis d'elles comme boucliers humains pendant la fusillade avec les forces de l'ordre. La caméra principale de surveillance de la banque ne peut pas non plus fournir de détails, puisque ce jour-là, elle ne fonctionnait pas. Malgré le peu d'éléments dont ils disposent, les policiers sont très investis. Ils comptent rendre justice à leurs collègues sous-brigadiers décédés pendant l'intervention. Dans la banque, on retrouve sur le sol 60 douilles provenant de deux armes différentes. Une Kalachnikov, celle qui a tué le sous-brigadier. L'autre, un pistolet de type Beretta. Parmi les débris, il y a du sang. Pas celui des employés et des clientes, puisque par miracle, aucune d'elles n'a été blessée. Mais celui d'un des braqueurs resté à l'intérieur. Le sang est prélevé pour être envoyé dans un laboratoire de Haute-Savoie. Cependant, en 1995, les analyses ADN ne sont pas encore très développées. Un peu plus tard dans l'après-midi, la voiture ayant servi à la fuite des braqueurs est repérée, abandonnée sur un parking à la sortie de la ville. Elle a été identifiée grâce aux informations transmises par un témoin. Ce dernier dit avoir vu les trois individus s'enfuir à bord d'une voiture Renault 21 grise. Mais une fois de plus, les enquêteurs n'obtiennent aucune description physique détaillée. Les enregistrements vocaux recueillis au PC de sécurité de la banque sont envoyés dans un autre laboratoire spécialisé dans l'analyse du son. Elle servira à confondre l'un des braqueurs. Les obsèques du policier Denis Hogg se déroulent dans une vive émotion. Promu officier de police à titre posthume, l'homme, originaire de Pompey, en Meurthe-et-Moselle, était très investi dans son travail. Plusieurs descentes sont organisées chez des anciens criminels qui ont purgé leurs années de prison. On interroge également les indicateurs du milieu. Certains parlent d'un coup de la mafia corse, d'autres des Lyonnais. Jusqu'à ce qu'un nouveau braquage finisse par mettre un visage derrière la cagoule. Nous sommes le 16 novembre 1995 à La Ferté-Bernard. La commune est située à près de 700 km de Thonon-les-Bains. Au soir, trois hommes prennent à partie Claude Auguste, le mari d'une employée de banque du Crédit Agricole de la ville, lorsque ce dernier rentrait chez lui. Armés, ils le contraignent à les laisser pénétrer dans son domicile. L'homme est père d'une fillette de 9 ans, prénommée Élodie. Et justement, cette dernière vient de rentrer chez elle, en compagnie de sa mère, Michel. L'employé du Crédit Agricole comprend immédiatement à qui elle a affaire. Elle leur donne tous les codes d'accès à la banque, ainsi que l'emplacement de l'alarme. Mais les trois hommes encagoulés ont un meilleur plan. Ils s'invitent chez la famille pour la nuit et les prennent tous en otage, sous la menace de leurs armes. Le lendemain matin, tous devront partir de bonne heure pour la banque. La nuit passe. Au petit matin, les braqueurs ont troqué leurs cagoules contre des déguisements de femmes. Du maquillage et une perruque suffisent à les faire passer pour des clientes ordinaires. Michel Auguste ouvre l'établissement. Les braqueurs emmènent la fillette et son père dans un bureau où ils sont ligotés. Ils attendent ensuite l'arrivée des employés. Elle se fait au compte-gouttes, Michel accueille ses collègues. Ces derniers sont neutralisés les uns après les autres. Jusqu'à ce qu'arrive une autre employée qui, elle, connaît tout le processus pour ouvrir le coffre. Elle est contrainte d'assurer l'ouverture des coffres pour les trois braqueurs. L'un d'eux l'accompagne, les deux autres restent dans les bureaux pour surveiller le comportement des otages. L'employé du coffre suit à la lettre la procédure à effectuer en cas de braquage, à savoir une erreur volontaire qui déclenche une alarme reliée au PC de sécurité. Les gendarmes sont prévenus. L'intervention doit se faire dans la plus grande discrétion. Deux policiers sont envoyés sur place. Ils parviennent à intercepter un dernier employé qui s'apprêtait à entrer dans la banque à 9h du matin. Ce dernier leur désigne une autre porte. Les deux gendarmes s'y engouffrent, mais sont accueillis par des tirs. L'un d'eux est grièvement blessé à la tête. Il sera plongé dans le coma pendant 2 semaines. Les braqueurs s'enfuient par une fenêtre à l'étage, se laissent glisser le long de la gouttière avant de voler la voiture d'un malheureux livreur qui passait par là. Le montant du butin s'élève à 36 000 euros. Un impressionnant dispositif de recherche est mis en place. Plus de 150 gendarmes, 2 hélicoptères et des maîtres-chiens sont mobilisés lors de l'activation du plan épervier. Mais les braqueurs ne sont pas arrêtés dans leur fuite. Il reste donc à essayer de les identifier un par un. Ils sont arrêtés entre mai et octobre 1996. Les premiers à être interpellés sont Tony Aubryl et Pascal Desailly. Tous deux ne sont pas impliqués dans le braquage de Thonon-les-Bains. En revanche, après plusieurs interrogatoires, ils finissent par donner une information qui pourrait être décisive. Il n'est pas impossible qu'un homme qui se fait appeler Jésus ait participé à l'opération. Jésus est bien sûr un pseudonyme. Son véritable nom est René Salin. Il figure parmi les braqueurs de La Ferté-Bernard aux côtés d'un quatrième homme, Jean-François Juzot. Nous sommes en octobre 1996. Jésus, qui était jusque-là introuvable, finit par être repéré à Paris grâce aux renseignements d'un éducateur de la police. Il s'avère, selon les informations recueillies, que le dénommé Jésus fréquente régulièrement un bistrot rue de Bagnolet, dans le 20e arrondissement. Un appartement situé en face de l'établissement est réquisitionné pour effectuer une surveillance. Plusieurs policiers l'occupent pendant quelques jours pour surveiller les allées et venues des clients du café. Ces habitués sont pour beaucoup des petits malfrats. Un soir, les enquêteurs font une descente et en arrêtent un certain nombre, parmi lesquels René Salin, alias Jésus.